Cinquième partie. Les semaines s'écoulèrent, trop courtes au gré de Luc, qui était dévoré par la fièvre du travail. Il venait d'obtenir le poste qu'il ambitionnait, avec des appointements de 100 francs par mois, pour commencer. Mais ses fonctions de comptable n'absorbaient pas tout son temps. Il lui restait de nombreux loisirs pour surveiller l'expédition des marchandises, pour apprendre le nom et l'usage des innombrables outils que renfermait l'entrepôt. À plusieurs reprises déjà, un ressort ou quelque engrenage s'étant dérangé au moment de l'envoi, Luc avait tout réparé fort adroitement. Il tenait de son père une grande habileté de main et il avait ce prompt coup d'œil qui, dans un enchevêtrement de rouages, devine immédiatement où est l'arrêt. Le soir, il étudiait, entouré de dictionnaires, de traités de mécanique et de géométrie, car il faut tout savoir, disait-il. Le matin, il se levait à l'aube et faisait aux environs de la ville une longue promenade pendant laquelle il repassait mentalement ce qu'il avait appris la veille. Ses poches étaient bourrées de calepins remplis de notes. À l'entrepôt, tout en frottant ses outils, il apprenait par cœur de longues colonnes de mots anglais ou allemands alignées sur un bout de papier. Ses livres de compte étaient fort bien tenus car il mettait à ce travail une intensité d'application où l'amour-propre entrait pour autant que le zèle. Luc s'était juré de n'avoir jamais ni erreur ni rature dans ses registres. Il ne se permettait pas la moindre distraction, pas le plus léger oubli. Sa mémoire, son attention étaient constamment tendues. On devinait, au pli de ses sourcils et de ses lèvres serrées, l'effort d'une volonté qui se concentre vers un but unique. « Cela ne durera pas, » disait Dalphon. Cela dura pourtant. Sa nature reprenait bien parfois le dessus et se donnait essor par quelques fougueuses échappées. Luc ressemblait alors à un jeune cheval qui rue et semble vouloir mettre tout en pièces. Mais bientôt, il revenait docilement se courber sous le harnais. Parmi le petit monde de l'entrepôt, son influence devint aussi grande que celle de Dalphon. Sa volonté maîtresse d'elle-même dominait avec autorité sur les autres. Après 3 mois d'épreuve, M. Moller témoigna ouvertement son estime à ce jeune employé si intelligent et si laborieux. Il invitait fréquemment et se plaisait à lui exposer ses théories commerciales. Pauline lui témoignait une certaine préférence. Luc nageait dans la félicité. « Je commence à me poser, » dit-il un jour en recevant un billet aimable par lequel Mme Moller l'invitait à souper au Tilleul où toute la famille était installée pour l'été. « Décidément, je commence à me poser. » « Et à poser aussi, c'est grand dommage, » répliqua Dalphon qui ne lui ménageait pas ses vérités. Luc rougit, ce qui lui arrivait encore. « Il faut pourtant que je tienne ma place, » murmura-t-il avec un peu d'impatience. « Vous ne voudriez pas me voir gaminer avec des apprentis ?»« Non, sans doute, mais à vous entendre quelquefois, on vous croirait pour le moins maréchal de France. » Luc, presque sans s'en douter, prenait peu à peu un ton plus tranchant, des airs de supériorité protectrice. Quoi d'étonnant, tout lui réussissait. Sa promotion avait été rapide, ses études avançaient du même pas. Il apprenait les manières du monde et 2 ou 3 fois déjà, passant la soirée au Tilleul, il avait cru lire dans les yeux de Pauline un étonnement secret mêlé d'approbation. Ses 1 200 francs d'appointement lui paraissaient une mine d'or. Comme il continuait à partager la chambre de Dalphon, son logement ne lui coûtait qu'une somme insignifiante. Tout le long du mois, il gardait soigneusement 3 ou 4 écus de 5 francs pour avoir le plaisir enfantin de les palper dans son gousset, mais il évitait soigneusement de les faire sonner, trouvant cela vulgaire. La vulgarité, il la redoutait par-dessus tout, car Pauline la raillait impitoyablement. Il avait remonté peu à peu sa garde-robe et était vêtu maintenant à la mode de la ville, ne portant sa longue blouse grise qu'à l'entrepôt. Quand il se promenait suivi de Lyon, bien des yeux remarquaient un beau garçon svelte et vigoureux, et même, un soir, dans les allées du square, on avait murmuré à côté de lui « Il est crânement chic, ma foi !» Ce soir-là, il était rentré chez lui, aussi heureux que le jour où il s'était assis pour la première fois à son pupitre de comptable. Il avait gagné sa seconde bataille. « Quand j'aurai ma jolie Claire au bras, on se retournera pour nous voir, pensa-t-il avec une vanité naïve. Mais je la veux élégante et bien mise. Ses robes n'ont pas de cachet, ses chapeaux semblent sortir de l'arche de Noé. Au bout du mois, quand je serai en fond, je lui achèterai quelques colifichets. Sa générosité aurait vidé sa bourse sans les remontrances de Dalphon, qui, en bon administrateur, prêchait toujours pour le fonds de réserve. Luc comblait sa mère de menus cadeaux qu'elle se défendait d'accepter, les yeux remplis de douces larmes. « La ville ne le gâte pas, tu vois, » disait-elle à Claire. « Il est toujours le même et plus affectueux encore, si possible. » La jeune fille ne répondait rien, car les airs grandioses de son cousin l'irritaient. Il le prenait parfois de haut avec elle, faisant sentir à la pauvre petite son ignorance et sa rusticité. Mais comme elle gardait dans son cœur les conseils de Dalphon, elle supportait patiemment ses tons protecteurs, tâchait de se conformer en toutes choses au goût de Luc, et, tandis qu'il faisait grand bruit de ses nouvelles études, se croyant bien sincèrement un jeune homme rare, Claire, sans mot dire, apprenait la grammaire, surveillait son langage pour se corriger de certaines locutions campagnardes qui choquaient Luc et employait tous ses loisirs à lui broder des pantoufles. L'été avait fait place à l'automne. Par un après-midi gris et voilé, Luc, debout à son pupitre, additionnait une interminable colonne, le menton dans sa main, l'air songeur. 49 et 7, est-ce qu'il va pleuvoir ? Tout serait gâté. Mais le baromètre remontait ce matin. 49 et 7, je ne connais pas du tout ce jeu de croquet, j'aurai l'air gauche. Cependant, s'il ne s'agit que d'avoir le coup d'œil juste et la main ferme, je pourrais gagner tout comme un autre. La partie commence à 5 heures, j'ai bien le temps de finir mes comptes. 49 et... Qu'y a-t-il encore, Ernest ? Je n'aime pas qu'on m'interrompe au beau milieu d'une addition. « Quelqu'un demande à vous parler, monsieur Luc. »« Eh bien, qu'on entre, » dit-il en posant sa plume d'un air résigné. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et un rayon de soleil parut se glisser dans la vaste salle au plafond noirci par la fumée des lampes, aux parois couvertes d'objets anguleux et bizarres. Une jeune fille entra, fraîche et gracieuse comme une matinée de mai, portant un gros bouquet d'œillets roses et rougissant sur les regards curieux des apprentis. Luc, qui aimait assez à jouer l'homme d'affaires, n'avait pas levé les yeux et mordillait sa plume d'un air absorbé. La jeune fille s'avança doucement et, tout à coup, jeta son bouquet sur le registre où il s'éparpilla en répandant son fin parfum de girofle. « C'est toi, Claire ? » fit Luc en tressaillant. « Quelle surprise ! » « Agréable, n'est-ce pas ?»« Oh, certainement très agréable. Tu viens si rarement en ville que je n'espérais pas avoir jamais le plaisir de te recevoir ici. » En même temps, il rassemblait d'une main distraite les fleurs éparses sur les feuillets du grand livre. « Si j'étais poète, dit-il, je ferais des vers sur ces œillets qui parfument mes chiffres. »« Je t'en tiendrai quitte pour un beau merci, » répondit Claire. « Marraine et moi, nous avons pillé le jardin pour fleurir ta chambre. À propos, je voudrais bien voir où tu loges, mais cela ne serait pas convenable peut-être. »« Pas très convenable, je le crains, » dit Luc, qui avait pris récemment l'habitude de se demander en toute chose ce que Mademoiselle Pauline en penserait. Mademoiselle Pauline était pour lui l'oracle du bon ton, du bon goût, du « comme il faut » dans tous les domaines. « Tant pis, » fit Claire avec un léger soupir. « Mais tu connais mieux que moi les usages de la ville. Du moins, j'aurais vu ton royaume, » poursuivit-elle en promenant ses yeux autour de la salle. « Et Lyon, où est-il ? » ?»« Dans la cour. Approche-toi de cette fenêtre, tu l'apercevras. » Elle s'accouda dans l'embrasure profonde où Luc lui avança un siège. « Es-tu très occupé aujourd'hui ? » demanda-t-elle de l'air moitié timide, moitié câlin, d'un enfant qui sollicite une faveur. « Ni plus ni moins qu'à l'ordinaire. »« C'est que j'ai fini toutes mes commissions en ville et je vais repartir. Si tu pouvais m'accompagner un petit bout de chemin... »« Aïe ! » fit Luc involontairement. « Ça se trouve mal. » Il s'interrompit en voyant l'air déçu de Claire. « J'ai un compte pressé à finir, dit-il. Excuse-moi de te laisser un moment, ce sera fait tout à l'heure. Mais je néglige le devoir le plus élémentaire de l'hospitalité, fit-il en revenant encore. « Tu as faim et soif, peut-être, Claire. As-tu dîné seulement ?»«
Oui, oui, ne t'inquiète pas de cela. Je n'ai besoin de rien, si ce n'est d'un verre d'eau. »
Luc fit un signe à Ernest et lui donna quelques ordres à voix basse. Le gamin, charmé de s'employer au service de cette jolie fille, qui, d'un seul coup d'œil, avait fait la conquête de son cœur inflammable, fut d'un saut chez le pâtissier du coin et en revint au bout d'un instant, portant un plateau chargé de belles oranges, de petits gâteaux et d'un carafon de sirop.
« Vraiment, dit Claire d'un ton de reproche, tu es extravagant, Luc. Je te demandais un verre d'eau. Pourquoi faire toute cette dépense ?»«
C'est une bagatelle, dit-il en haussant les épaules de son air grand seigneur. « Repose-toi et te rafraîchis bien, Claire. Je serai tout à ta disposition dans 10 minutes. »«
Ah !» pensa Claire en le suivant des yeux. « Ma reine n'a pas tort. Luc a beaucoup gagné depuis quelques mois. Il faut le voir ici, dans son vrai élément, où il commande et dirige, comme s'il n'avait fait que cela toute sa vie. Comme sa plume court sur ses gros livres, rien ne lui est difficile. On le mettrait dans le gouvernement un de ces 4 matins, qu'il ne serait pas embarrassé une minute. »
Et Claire soupira d'aise en songeant avec une humilité naïve combien elle était privilégiée de posséder un tel cousin. Les réflexions de Luc étaient d'un genre beaucoup moins agréable. « Il est 3 heures, se dit-il en tirant sa montre. 2 lieues d'ici à la Rosière, autant pour revenir. Je ne serai pas de retour avant 7 heures et je manquerai la partie de croquet. Que c'est donc contrariant ! Claire, qui ne vient en ville que 2 fois par année, aurait bien pu choisir un autre jour. Mais enfin, puisque le sort l'a voulu, il faut bien se soumettre et de bonne grâce encore. La mauvaise humeur ne raccommoderait rien et ferait même un autre accroc. Cette résolution était fort sage. Luc aurait dû s'y tenir. « J'ai fini, dit-il en jetant sa plume après avoir additionné une dernière colonne. Claire, je suis tout à tes ordres maintenant. Monsieur d'Alphonse est absenté pour une demi-heure. Quand il rentrera, je lui demanderai l'autorisation de quitter mon travail. »
« Cela ne te dérange pas du tout, mais pas du tout, » dit Claire, qui avait cru découvrir une ombre de contrariété sur le visage de Luc.
« Pas le moins du monde, puisque mes comptes sont finis. » Elle eût souhaité une réponse plus tendre, mais Luc ne pouvait sincèrement protester parce qu'il était fort heureux de manquer la partie de croquet pour accompagner sa cousine. D'Alphon Renaud rentra sur ses entrefaites. « Vous ne lui avez rien dit de votre invitation, » fit-il à demi-voix, tandis que Claire ouvrait la fenêtre pour jeter un morceau de brioche à Lyon.
« Non, sans doute, » répondit Luc en haussant les épaules. « Quand je fais un petit sacrifice, je ne le gâte pas en le proclamant sur les toits. Si vous le pouvez, faites savoir à Mademoiselle Moller qu'il m'est survenu un empêchement à la dernière minute. Elle en sera bien contrariée elle-même.
« Croyez-vous ? » fit D'Alphon Renaud avec son sourire gravement ironique. Luc tourna sur ses talons en déclarant à part lui que M. D'Alphon devenait absolument insupportable.
« Partons-nous, » dit Claire. « Ma reine me grondera si je m'attarde. Au revoir, M. Renaud. N'oubliez pas de venir à la Rosière un de ces dimanches. »
Elle prit le bras de son cousin et tous deux sortirent ensemble, tandis que les apprentis groupés non loin de la porte se communiquaient des remarques ponctuées de coups de coude. Cependant, Luc, tout en s'exhortant à montrer une bonne humeur inaltérable et la sérénité d'un martyr, gardait une mine très sombre et un profond silence. Claire babillait gaiement, heureuse de traverser les rues au bras de Luc et de savoir son cousin bien à elle, tout à elle, pour 2 grandes heures. Elle était si jolie, avec ses yeux brillants et sa petite fossette au coin de la bouche, son grand chapeau sous lequel s'emmêlaient ses cheveux cendrés, son petit pas alerte et joyeux, que plus d'un passant s'arrêta au bord du trottoir, trouvant que Luc était un heureux mortel.
Quant à Luc, il ne voyait rien de tout cela. Pour lui, Claire avait la figure d'un désappointement et cette figure-là n'est jamais avenante. Voyant que son silence morose étonnait la jeune fille, il en sortit par un brusque effort. « Es-tu venu seul en ville ? À quelle heure es-tu parti ? » demanda-t-il. « À 11 heures. C'est l'occasion qui a fait le larron. Notre voisin Jean passait sous nos fenêtres. Marraine me dit, demande-lui de t'attendre et cours t'habiller. Tu auras tout l'après-midi pour faire tes emplettes. J'avais besoin de bottines neuves, de fil à coudre, de 1000 choses. Mais j'avais surtout un grand désir de te voir dans tes nouvelles fonctions, Luc. Maintenant que je connais l'entrepôt, ce sera beaucoup plus commode. Je ne savais où te mettre quand je pensais à toi, ce qui m'arrivait toute la journée, » ajouta-t-elle à demi-voix. Elle regarda Luc si gentiment que sa mauvaise humeur n'y put tenir. Il pressa la petite main gantée de fil d'écorce qui s'appuyait sur son bras. « Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt nous égayer de ta visite ? L'entrepôt en semblait tout réjoui. Ernest et nos galopins parleront 15 jours de cet événement. « C'est que je suis poltronne comme tout. Tu le sais bien, Luc. Cette longue course à travers les bois m'effraie. Il me faut un protecteur. Le père Jean peut suffire, à la rigueur, mais avec toi, Luc. Non, tu ne sauras pas ce que j'allais dire. Tu es déjà bien assez vaniteux comme cela, monsieur mon cousin. » Et tout bas, elle pensait, « Combien sont satisfaits d'eux-mêmes qui en ont le droit moins que lui ?» Ils marchaient depuis une grande heure dans les sentiers de la forêt. Luc avait presque oublié son désappointement et entretenait sa cousine, comme à l'ordinaire, de ses grands projets d'avenir. Il était sur la piste d'une invention à faire. Un des clients de la maison avait renvoyé un outil fabriqué sur ses ordres, alléguant que l'une des mâchoires, fixe au lieu d'être mobile, empêchait le jeu de tout l'engrenage. « Vois-tu, » disait Luc à sa cousine, en figurant avec ses doigts les différentes parties de l'outil. « Il y a une broche ici, avec un poulet. »« Un poulet à la broche ? » exclama-t-elle en riant. « Ta mécanique est donc à l'usage des cuisinières ?»« Ne m'interromps pas, ces mots ont un sens spécial. Regarde, il suffit d'écarter les deux broches avec une transmission dans le milieu, comprends-tu ? Et les deux mâchoires tourneront en sens inverse, ce qui est précisément le point demandé. C'est simple comme bonjour, mais personne n'y songe. L'œuf de colomb, quoi ? Quelques détails d'exécution m'embarrassent encore. Tu comprends que je veux être sûr de mon affaire avant d'en parler au patron. Si le système fonctionne à souhait, je l'applique à certains étaux de mon invention, puis je perfectionne divers outils. Oh, j'ai des idées, va, plein la tête !» Claire regardait son cousin avec admiration. « Comment fais-tu » dit-elle. « Moi, j'aurais beau réfléchir pendant des semaines, en fermant les yeux et en me bouchant les oreilles, je n'inventerai rien. » « Chacun sa partie, » répondit-il avec une tendresse condescendante. « Je t'aime comme tu es. »« Pardi, je le crois bien, » dit une grosse voix derrière eux. « On se contenterait à moins, monsieur Luc. » C'était le voisin Jean qui les avait rejoints sans qu'ils se doutassent de son approche, car la mousse du sentier amortissait le bruit des pas. Claire fit la moue. Cette interruption était bien malvenue. « Vous êtes en retard, père Jean, » dit-elle. « C'est la faute à ma femme. J'ai couru toutes les boutiques pour trouver de l'indienne à son idée, et me voilà, comme vous dites, mademoiselle Claire, avec 2 heures de retard. » Il tira de son gousset une de ces grosses montres épaisses qu'en style de fabrique on appelle des oignons. Le père Jean fut mal inspiré, car la vue de sa montre donna une tentation à Luc. « 4 heures, pensa-t-il, ayant accompagné Claire jusqu'à la moitié du chemin, j'ai bien fait mon devoir. Si je la laissais à la garde du père Jean, je pourrais encore arriver à temps pour la partie de croquet. Ma cousine est trop raisonnable pour s'en offenser. Mais comment lui présenter la chose d'une manière délicate ?»« Claire, » fit-il avec un peu d'embarras, « me permettrais-tu de te quitter maintenant ? J'ai un engagement pour 5 heures auquel je voudrais bien ne pas manquer. Te voilà sous bonne escorte. » C'est un rendez-vous très important, fit-elle d'un ton de regret.
Pas précisément.
Il eût souhaité en rester là, mais les yeux de Claire sollicitaient une explication.
Voici le fait, poursuivit-il en prenant un ton dégagé. J'ai reçu de Mademoiselle Moller une invitation pour une partie de croquet à la campagne. Ce n'est pas que j'y tienne énormément, mais mon absence la désobligera. Il est très essentiel, tu comprends, que je reste en bon terme avec mon patron et sa fille.
Va, je ne te retiens pas, dit Claire.
Sa voix était brève. Elle baissa les yeux et tendit la main à Luc sans le regarder.
Tu n'es pas fâché, dit. Si le père Jean ne nous avait rejoints, je t'aurais escorté jusqu'à la rosière, cela va sans dire.
Pars vite, interrompit Claire, sinon tu arriveras trop tard.
Elle se détourna lentement et, sans attendre le voisin que cette petite scène étonnait, elle reprit sa marche toute seulette et le cœur bien gros. De retour à la rosière, elle raconta brièvement à Madeleine que Luc se portait bien et semblait fort heureux, qu'il avait accompagné un bout de chemin, qu'il lui avait communiqué de grands projets et ne manquerait pas de faire fortune. Ses lèvres tremblaient, mais elle refoula ses larmes jusqu'au moment où, seule dans sa petite chambre, elle put enfin les laisser couler.
La partie de croquet était commencée lorsque Luc sonna à la grille que Julie vint lui ouvrir. Les boules aux gaies couleurs roulaient sur le sable uni de la terrasse. Un groupe d'élégantes jeunes filles, appuyées contre la balustrade, discutait avec animation quelques coups douteux, tandis que Pauline, le maillet en l'air, relevant du bout des doigts sa jupe rose, s'apprêtait à croquer la boule de son adversaire pour l'envoyer à l'autre bout du monde.
« Ah, monsieur Offrand, nous ne vous attendions plus !» dit-elle en apercevant Luc. Puis elle le présenta aux jeunes gens qui l'entouraient.
« Excusez-nous d'avoir engagé la partie, poursuivit-elle. Vous serez juge des coups. Nous avons souvent besoin d'un arbitre. »
Luc était fort heureux de ce répit qui lui permettait de cacher sa complète ignorance du jeu. Il s'assit un peu à l'écart, surveillant tous les mouvements des joueurs. Les amis de Pauline étaient jolis, mais aucune ne possédait sa distinction, sa parfaite aisance. Quant aux jeunes gens, ils étaient fort corrects. Il n'y avait rien d'autre à en dire. Luc, qui ne pêchait pas en général par une trop mince opinion de lui-même, se dit qu'il soutiendrait avantageusement la comparaison avec eux. Sa figure intelligente, sa tournure aisée, ses manières un peu réservées et cérémonieuses avaient en effet conquis dès la première minute toute la partie féminine de la société. On trouva qu'il avait un excellent genre anglais, froid mais distingué. Quand la seconde partie s'engagea et que Luc fut admis à l'honneur de tenir le maillet, son premier coup ne trahit aucune inexpérience. La boule traversa les deux premiers arceaux et s'arrêta en face du troisième, toute prête à le franchir au coup suivant.
« Comme vous faites votre chemin ?» dit Pauline.
Et Luc considéra ce mot comme d'un bon augure pour ses ambitions. Son camp gagna la partie, après quoi la femme de chambre apporta le thé sur la terrasse et Luc se mit à servir les dames avec un empressement courtois qui lui valut de leur part bien des sourires, bien des noirs regards aussi de ses frères du sexe fort. La nuit tombée, on allait rentrer quand M. Moller parut à la grille. Pauline courut au devant de lui.
« Eh bien, fillette, dit-il en lui pinçant l'oreille, ce qu'elle n'aimait guère.
« S'est-on bien amusé? A-t-on fait la coquette ?»«
Papa !» dit-elle en se redressant.
« Quoi donc? Ce n'est plus à la mode? Tu ne me le feras pas croire. Et le jeune Offrand, comment se comporte-t-il »«
Parfaitement bien. Il serait à désirer que chacun eût d'aussi bonnes manières, » répondit Pauline en appuyant la main sur sa petite oreille que les gros doigts de son père avaient rendue écarlate.
Tu t'es montré aimable, j'espère. Offrant est plein d'intelligence. Son zèle est étonnant. Je désire l'enchaîner à la fortune de notre maison. Il nous rendra des services. Te plaît-il?
Beaucoup. Je vous ai déjà dit que je lui trouvais l'air d'un jeune prince, mais vous m'avez grondé.
C'était une sottise, en effet, mais je suis bien aise qu'Offrant ait su te plaire. Pauline leva des yeux un peu étonnés. Son père n'attachait pas ordinairement une grande importance à son opinion. Au retour, Luc fut chargé d'escorter jusqu'à leur porte deux jeunes filles qui avaient été ses partenaires. Comme il marchait à côté d'elles, admirant leur élégance, écoutant leur petit babil de bon ton, il ne put se défendre d'un vif mouvement d'orgueil. « Mademoiselle Meulaire, pensa-t-il, n'a pas tort quand elle trouve que je fais vite mon chemin. Hier, pauvre beau vit chez mon père, aujourd'hui, on passe d'arriver à tout. Je n'ai qu'à suivre mon étoile. » Puis ses pensées revinrent à Claire. « Pauvre petite, je l'ai chagrinée, mais c'est un devoir maintenant pour moi d'apprendre à connaître le monde et ses usages. Elle devrait le comprendre. En toute autre circonstance, j'aurais été charmée de l'accompagner. Ne devons-nous pas faire ensemble le voyage de la vie ?» Au même moment, Claire pensait à Luc, mais son cœur était plein de tristes pressentiments, tandis que celui du jeune homme se gonflait d'audacieuses espérances. La fin des beaux jours approchait. L'automne, sous la pâle lumière d'un ciel gris, achevait languissamment de mourir. Déjà, les rafales du vent d'ouest annonçaient la neige. « Femme temps pour travailler !» disait Luc en s'installant le soir devant sa table couverte de livres et de cahiers. « Comme je vais piocher cet hiver !» Mais il comptait sans une passion nouvelle qui fit une formidable concurrence au dictionnaire. Ce fut la passion du patinage. Aussitôt que le froid s'établit, l'emplacement destiné à ce genre d'exercice fut inondé. Une mince couche de glace, unie et brillante comme le cristal, mais tout aussi fragile d'abord, réjouit bientôt les yeux des patineurs. Le gel ayant persisté pendant plusieurs nuits, elle s'épaissit de façon à pouvoir être garantie comme parfaitement solide. Et les abonnés accoururent, bravant les chances d'un bain qui n'eût été d'ailleurs qu'un simple bain de pied. Luc avait dû sortir par un clair et froid après-midi pour se rendre chez son mécanicien qui habitait un quartier assez éloigné. Il longeait les temps du patinage, suivant des yeux les évolutions capricieuses de quelques couples. Une jeune personne qui patinait seule attira ses regards par l'aisance de ses mouvements et la richesse des fourrures dont elle s'enveloppait. Sa petite toque était ornée d'une plume au reflet de bronze. Sa pelisse de soie brochée, s'entr'ouvrant, laissait apercevoir une moelleuse doublure de satin vieil or. La jolie patineuse glissait de ce mouvement ondoyant, fugitif, qui fascine et lasse à la fois les yeux. « C'est Mademoiselle Meulaire, » se dit Luc, lorsque, parvenue à l'extrémité de l'étang, elle se retourna et lui laissa voir son visage. Elle l'avait reconnu aussitôt. Elle s'approcha de la barrière pour répondre au salut du jeune homme. « Patinez-vous, monsieur Offrand ?»« Non, mademoiselle, » répondit-il avec regret. « J'ai appris autrefois quand j'étais petit garçon, mais je n'ai guère pratiqué dès lors. »« Il faut vous y remettre et nous ferons ensemble un tour d'étang. C'est un conseil d'hygiène que je vous donne là. Venez ce soir, mon père patine très bien, il vous aidera. » Elle s'éloigna d'un mouvement rapide et léger. Luc Offrand la vit prendre par la main une fillette craintive et l'encourager à s'élancer hardiment avec elle. « Je me passerai cette folie, » murmura Luc. « Aussi bien, je travaille comme un esclave depuis 6 mois. Je puis m'accorder un peu de relâche. » Pauline Meulaire glissait toujours, infatigable et gracieuse comme une mouette. Ses mains se croisaient avec celles d'un jeune homme qui avait sollicité la faveur d'accompagner une aussi brillante patineuse. Tous deux, légèrement inclinés, les yeux brillants de plaisir, décrivaient de grands cercles qui enchaînaient Luc comme des cercles magnétiques. Sentir, lui aussi, la chaude pression de ses petites mains souples, vibrer avec Pauline dans un même élan et passer ensemble comme deux flèches emportées vers le même but, pour jouir de cet enivrant privilège, il suffisait d'avoir des patins. Cependant, Luc craignait un peu que Dalphon ne se moquât de sa fantaisie. Pour la lui présenter comme un fait accompli, il entra aussitôt chez un quincailler et choisit une fine paire d'Halifax à lame étroite et légère qui mordrait la glace comme un burin. Au rebours de ses prévisions, Dalphon Renaud ne lui fit aucune remontrance. « La nature reprend le dessus, » dit-il en souriant. « Votre zèle pour l'étude passait décidément les bornes, j'attendais la réaction. Aussi, nous allons enfermer les livres dans l'armoire et jeter la clé par-dessus les moulins. » Luc se récria, protestant qu'il saurait tenir les rênes à son caprice. Dalphon secoua la tête. Ce soir-là, Luc, sans même prendre le temps de souper, courut tout droit de l'entrepôt sur la glace. Il voulait débuter incognito. Ses chutes, s'il en faisait, resteraient anonymes. Pendant une heure, il s'escrima si bien que lorsque les patineurs commencèrent à affluer et que les grands candélabres à gaz éclairèrent cette foule mobile, il put quitter sans crainte la pénombre où il cachait sa maladresse de débutant. Du reste, comme il l'avait dit à Pauline, ce n'était point son coup d'essai. Il avait patiné sur le doux gelé, à l'heureux âge où l'on tombe sur son nez 10 fois par minute, sans le moindre inconvénient. Il retrouva sans trop de peine le coup de patin, si difficile à acquérir plus tard, et se lança alors hardiment à la recherche de Pauline.